guys! Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables. Ben oui, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du podcast, puis pour l'occasion, ben j'avais envie de faire les choses différemment, puis de vous offrir un petit quelque chose de spécial, un épisode en solo avec mon moi-même, où je vais prendre le temps de répondre à certaines de vos questions pour que vous puissiez apprendre un peu plus à me connaître. J'ai reçu plusieurs commentaires dans les derniers mois par rapport au fait qu'on ne me connaît pas, qu'on ne connaît pas mon histoire, puis que malgré l'objectif principal du podcast qui est de faire parler les autres, puis de les mettre en lumière, puis de mettre en lumière leur parcours, puis leur vécu, bien, pour véritablement connecter avec moi puis mon projet, c'est important pour certains de mieux me connaître, puis de comprendre, bien, c'est qui la fille derrière les insatiables. Parce que les Insatiables, ça fait officiellement un an que j'ai lancé ça. Et quelle folle, folle aventure ce fut. Et quelle folle aventure ça continue d'être tout ça. La chance que j'ai de pouvoir créer quotidiennement, de connecter avec autant d'humains inspirants, d'échanger avec des auditeurs merveilleux, puis d'être pleinement qui je suis et ce, au rythme d'une passion que je déguste à chaque minute de ma vie, bien, tout ça, là, c'est vraiment indescriptible. Puis je voulais, là, c'est important, là, je voulais prendre le temps de vous remercier du fin fond de mon petit cœur, de votre support, de votre enthousiasme, de vos encouragements, de votre honnêteté et surtout de votre humanité. Merci de me faire une petite place dans vos écouteurs lorsque vous partez jogger. Merci de me laisser entrer dans votre système de son de votre voiture. Puis merci de simplement m'accompagner à travers les aléas de ce podcast. Parce que ce projet-là, il vous est dédié, mes insatiables. Puis plus ce projet avance, plus ce projet progresse, plus je réalise une chose. C'est un mensonge de se convaincre collectivement que prendre le temps de s'écouter doucement, ben c'est une tâche pénible, rendue impossible par l'instantanéité technologique, que juste prendre le temps, c'est rendu un luxe inatteignable, puis que s'engager à ouvrir ses horizons, puis à apprendre à son rythme, ben c'est un rêve futile issu du monde des licornes. Ben moi, là, j'ai jamais adhérer à ces idées-là et je le ferai jamais. Parce que pour moi, le plus beau cadeau qu'on peut tous s'offrir, c'est bien de se rallier derrière ce concept hyper simple que d'être curieux, que d'apprendre à son rythme, que de challenger les statu quo puis l'immobilisme, bien c'est un des plus beaux trésors de notre existence. Parce que c'est bien à coup de curiosité insatiable, de volonté intarissable, puis de soif de grandir que je pense sincèrement qu'on est capable d'accomplir des grandes choses en gang, puis qui sait, changer notre petit monde à notre façon. Fait que cet épisode, il en sera donc un axé sur moi. Et sachez de prime abord que c'est loin d'être naturel et facile pour moi de faire ça. C'est un peu contre nature pour moi de dévoiler certains pans de ma vie personnelle. Mais je pense que c'est un exercice qui a le potentiel d'être plus agréable. OK, que je ne l'envisage. Donc, je reste positive. Ça va être relax, ça va être naturel, puis ça va se faire comme si vous étiez vraiment devant moi, en tant qu'animateur, à me poser vos questions comme si j'étais l'invité. Fait que, en gros, comment ça va se passer? Je vais répondre à une dizaine de questions que vous m'avez envoyées via Instagram, puis je vais essayer du mieux que je peux d'y répondre de façon claire, mais surtout avec sincérité. Il n'y aura pas d'alcool aujourd'hui parce que je me définis comme une buveuse sociale et que boire seule, ben c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon truc. Fait que ça va être un épisode tout en sobriété avec seulement mon honnêteté et un bon verre d'eau pétillante pour m'accompagner au micro. N'oubliez pas que si vous aimez ce que vous entendez, allez mettre un avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et aussi, allez suivre la page Instagram de l'émission, @lesinsatiablespodcast. Et surtout, là, surtout le plus beau geste que vous pouvez faire pour ce podcast-là, là, c'est d'en parler à votre entourage. Puis c'est surtout de les inviter à peser sur play. Parce que ça, c'est vraiment la plus belle publicité que vous pouvez faire pour les insatiables, puis pour tout le travail que j'y mets pour vous offrir du contenu de qualité. Bon, fait que trêve de blabla. On y va-tu? On plonge-tu? Ouais, on le fait? OK, c'est bon, ça part. Fait que si j'étais un brand, quelle serait la phrase qui me représenterait le mieux? Très difficile cette question, très difficile, parce que moi, je suis une fille de citation. Je suis une fille de citation. Moi, je ne suis pas une fille de citation de type je les écris pour me faire des tatous, là. Puis pour ceux. Là, je juge pas, là, je juge pas du tout. Là, je vais prendre une gorgée d'eau. Parce que quand il y a des invités, vous l'entendez peut-être pas, mais on boit du vin, donc ça nous permet de rester hydratés à travers nos échanges, mais là, je me le permets. Donc oui, moi, je suis une fille de citation, mais pas une fille de citation juste pour dire. Tu sais, Moi, je sais pas, la sagesse qui émane de certaines citations de gens qui ont vécu des choses touchantes, des choses difficiles, des choses exaltantes, pour moi, c'est comme des espèces de leçons, c'est comme une façon d'apprendre à travers des gens qui ont passé avant nous. C'est pour ça que moi, j'adore lire des biographies. Je trouve que c'est une espèce de devoir de mémoire qu'on devrait tous mettre de l'avant collectivement. Là. Essayer d'apprendre des erreurs du passé, essayer d'apprendre des succès du passé. Bref, moi, je suis une fille de citation. J'en ai beaucoup dans mon cellulaire. Je réfléchis là-dessus, je médite là-dessus. Donc là, c'était difficile pour moi d'en choisir une seule, mais là, je voudrais qu'en ce moment, une phrase qui m'anime beaucoup, beaucoup et sur laquelle je réfléchis depuis quelques jours, c'est une phrase que Steve Jobs a prononcée durant son commencement speech à Stanford en 2005, que je vous invite à aller écouter. Il a dit durant ce commencement speech-là, « Stay hungry, stay foolish ». Et ça, c'était sa leçon hein, qu'il donnait aux nouveaux gradués de Stanford. Ça m'a beaucoup frappé, ça. Stay hungry, stay foolish. C'est dur à traduire, là, mais rester affamé. Rester affamé et rester un peu, pas dans le déni, mais tu sais, foolishness, comment je pourrais traduire ça? Foolishness, c'est un peu dans ton monde, sur ton nuage, là, que tu y crois, mais que tu as beaucoup de personnes qui vont te dire « fais le pas, ça n'a donc même pas d'allure ». Et pour moi, la vie, pourquoi ça m'a frappée? Parce que je pense que la vie est franchement très courte. Hein? Je sais pas. En fait, c'est pas une opinion, c'est un fait. La vie est courte et je pense qu'on perd énormément de temps à vivre dans nos routines très confortables, à se débiliser un peu collectivement devant nos cellulaires, à s'anesthésier cognitivement, à se demander sans cesse ce que les autres pensent de nous, s'ils nous jugent, s'ils nous trouvent beaux, s'ils nous trouvent wow. Puis je trouve que ça fait en sorte qu'on a un peu oublié toute cette beauté là, qui réside dans le désir d'être 100% nous-mêmes. De vouloir écouter notre petit cœur, de vouloir apprendre, de vouloir être curieux, d'être hungry à devenir la meilleure version de nous-mêmes, de rester foolish, à s'en foutre des opinions des autres. Puis moi, s'il y a quelque chose qui me hante beaucoup, surtout depuis presque 2 ans, là, quelque chose qui me hante beaucoup, c'est de half-ass ma vie. Donc, de faire ma vie à moitié. Ouais, ça me fait beaucoup, beaucoup capoter. Ouais, ça me hante beaucoup. L'idée d'être moi, mais juste à 40-50%. Tu sais, vraiment être dans le underachieving, d'être dans le under you. Puis surtout de pas vouloir tout mettre en place pour être la meilleure version de moi-même. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Puis être la meilleure version de soi-même puis prendre le temps d'être la meilleure version de soi-même, pour moi, ça, J'ai compris ça, que pour moi, ça passe pas par me booker 975 activités par semaine ou partir en vacances à chaque 2 mois. Pour moi, être la meilleure version de moi-même puis m'assurer de pas half-ass ma vie, bien, ça passe par une curiosité incessante, une curiosité insatiable. La lecture, ça passe par l'envie d'essayer des choses, ça passe par s'écouter, se questionner seul, méditer là-dessus. Ça passe par l'amour propre que je me porte en me disant que « things are gonna be all right » parce que je plonge dans des choses que j'aime, dans des choses qui me passionnent. Fait que c'est ça. Stay hungry, stay foolish. Puis ça va être mon conseil que je vous donne durant cet épisode. Alors, la première question, qui m'a été transmise via Instagram, c'est une question, ça commence fort, une question facile. Pas du tout. La première question, c'est pourquoi as-tu décidé de commencer un podcast? La fameuse question à 1 million $. Je vais essayer d'être claire, je vais essayer d'être succincte dans mon explication parce que je pense que je pourrais parler de ça pendant des heures. Et c'est une réponse, je pense, qui va nécessiter plusieurs éléments de réflexion. Et là, même moi, je suis en train de réfléchir et je me dis par où je prends ça. Comme vous avez pu le voir là, avec mon top 5, j'ai toujours été, à la base, là, j'ai toujours été une très grande fan des médiums qui mettent en place des circonstances conversationnelles hyper humaine, très épurée, très touchante, qui ont un petit côté éducatif où on apprend à travers la conversation, où ça fait naître des réflexions importantes en nous. Et je pense qu'à travers tout ça, c'est parce que l'humain m'a toujours fascinée, en fait. Ça, je pense que c'est un constat, c'est quelque chose qui m'habite énormément et qui est probablement l'un des fondements de qui je suis, c'est que l'humain me fascine. L'humain me fâche, l'humain m'irrite, l'humain m'exaspère, il me fait de la peine, mais l'humain me surprend. Aussi, l'humain me touche énormément et l'humain m'intrigue plus que tout. Puis, ce qui me touche dans la vie, je l'ai compris là, dans les dernières années, ce qui me touche dans la vie, ce qui joue avec mes émotions, ce qui me motive, ce qui me passionne, ben ça a toujours rapport avec l'humain. Ça a toujours rapport avec les personnes que je rencontre, avec les communautés qui ont un impact dans ma vie, avec les personnes extraordinaires que je côtoie dans mon entourage. L'humain est toujours au centre de mes réflexions, est toujours au centre des projets que je veux entamer. Donc ça, je pense que c'est vraiment un constat important à faire en entrée de jeu là, dans ma réponse. Puis aussi, un autre élément important là, à ne pas négliger dans ma réponse, c'est que je suis une grande consommatrice de podcasts. Je suis une très, très, très grande fan de podcasts. Avec l'avènement des podcasts là, dans les 10-15 dernières années, je dois avouer être tombée tête première là-dedans en tant qu'auditrice. Je trouve que c'est une invention géniale. C'est un médium complètement libre en termes de contenu, en termes de créativité. Il n'y a pas vraiment de barrières, il n'y a pas vraiment de restrictions. C'est vraiment un lieu où la création s'entremêle aux réflexions, aux échanges, aux passions, puis aux intérêts là, de diverses communautés. Je trouve ça vraiment franchement génial comme invention. Puis là, vous allez me dire... Oui, mais il y a plusieurs personnes sans substance, sans contenu, qui ont sauté là-dessus pour simplement venir jaser de trucs complètement vides dans le but d'être viraux ou de faire du gros cash. Ça, je vous l'accorde, là. On fera pas de débat là-dessus. Vous avez 100% raison. Du contenu vide, il y en a. Des influenceurs qui se partent des podcasts pour dire qu'ils partent des podcasts, il y en a. Mais des gens comme ça, il y en a toujours eu dans plein de domaines, dans plein d'endeavors, de projets, il y en a toujours eu. Comme il y en avait sur les chaînes YouTube, comme il y en a encore sur les chaînes YouTube, comme il y en a dans des séries web, comme il y en avait dans les magazines, dans le monde de la musique. Ça, il va toujours en avoir. Mais ce qu'il va toujours avoir, c'est aussi de la qualité dans les podcasts. Parce qu'il y en a de la qualité dans les podcasts. Il y a des podcasts de très mauvaise qualité, je vous l'accorde, mais des podcasts de qualité, il y en a. Puis, si vous saviez le nombre de choses que j'ai apprises, le nombre de fois où j'ai ri, le nombre de fois où je me suis sentie interpellée, surtout le nombre de questionnements importants que certains podcasts ont engendrés en moi, si vous saviez, là... C'est pour ça que moi, les podcasts, ça a une place particulière dans mon cœur. Puis je pense que ça découle du fait que, un, je suis très intriguée par l'humain. J'aime apprendre, je suis curieuse de nature. Fait que pour moi, les podcasts, c'est vraiment un médium extraordinaire pour moi. Puis pour vous, je vous souhaite d'écouter plein de podcasts. Pour vrai, là, quand vous trouvez les podcasts qui vous conviennent, quand vous trouvez les podcasts qui sont capables d'aller toucher cette petite fibre en vous d'intérêt, de passion et de désir d'apprentissage, pour vrai, je vous souhaite de trouver ce type de podcast-là. Et voilà, donc, étant donné que j'étais déjà une très grande fan des podcasts, ben c'est sûr que ça aide. Hein? Ça aide d'être passionné. Ça aide d'être passionné quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, parce que moi, je considère le podcast comme une petite aventure entrepreneuriale. Ça aide d'être passionné parce que je pense que le produit final reflète cette passion. Je pense que le contenu final reflète cette passion. Donc voilà, très grande passionnée des podcasts. J'aime comprendre l'humain, j'aime comprendre ses émotions, j'aime comprendre son parcours. Et là, je réalise que ça n'explique pas encore complètement mon histoire personnelle de pourquoi j'ai décidé de me lancer. Il faudrait que j'aille un petit peu plus dans la viande autour de l'os. Je vais être très honnête avec vous, puis je l'ai évoqué de manière très succincte sur certains épisodes, surtout de la première saison. Mais il y a à peu près un an et demi, j'ai frappé un mur. Hein, j'ai frappé un mur professionnellement qui m'a forcé à tout arrêter. Et ça n'a pas été facile. Surtout au niveau de ma santé mentale, je vous dirais que ça a été une très grosse épreuve. Puis pour vous mettre en contexte un peu, je veux dire, pendant très, très longtemps, j'ai été et j'ai évolué dans l'hyper-performance. Je viens d'un background de sport de haut niveau. J'ai joué au soccer de haut niveau pendant très longtemps. J'ai un caractère très intense, très perfectionniste. Et surtout, je me suis toujours définie par mes réalisations sportives, mes réalisations académiques, et plus tard, mes réalisations professionnelles. C'était ma seule façon de me définir. J'allais vite, j'allais intensément, j'allais à fond de train. Puis ce rythme-là, malheureusement, ne m'a jamais permis de me poser les vraies questions. Et les vraies questions étant, mais qui es-tu? Qui es-tu, Sam? Qui es-tu? Et je ne le savais pas. Je ne le savais pas, mais j'allais tellement vite que ça n'était pas problématique. J'allais tellement vite, j'avais pas le temps de creuser plus loin. Mais depuis l'adolescence, j'avais quand même une petite voix en moi qui résonnait. Une petite voix qui me lançait quand même quelques signaux d'alerte. Une petite voix qui me disait « C'est peut-être pas toi tout ça. Hein? Ça ne te représente pas. Ce n'est pas qui tu es pleinement. Es-tu vraiment heureuse? » Et cette petite voix... Et je vais mettre l'emphase sur petite parce qu'elle n'avait pas le pouvoir de me faire arrêter complètement, mais je l'entendais. Je l'étouffais. Je l'étouffais à travers mon rythme incessant, à travers mes performances, à travers mes réalisations. Donc, je ne me posais jamais plus de questions, mais cette petite voix-là, c'est ça. C'est une petite voix qui me faisait parfois réaliser que je ne fitais pas. Et ce sentiment-là de ne pas fitter m'a quand même longtemps habité, de me sentir outcast, de me sentir un petit peu un mouton noir, de pas nécessairement fitter dans les cadres sociaux. C'était peut-être un servicieux, dans le sens plus cette petite voix-là me résonnait en moi, plus je voulais l'étouffer. En me fondant le plus dans la masse de la performance, en sachant un petit peu que je ne fitais pas. Bref, j'ai continué mon rythme infernal, j'ai continué d'étouffer ma petite voix jusqu'à temps que je frappe un mur, et j'ai frappé ce mur à 30 ans, de façon quand même assez violente. Ça m'a ramassé comme un tsunami, ça a impacté ma santé mentale, comme je vous ai dit, ça a impacté mon quotidien, et ça a impacté ma définition comme personne. Ça a impacté ma définition comme personne parce que là, quand ça arrive, ces moments-là, on n'a comme pas le choix. Hein? On n'a comme vraiment pas le choix de faire face à qui on est puis de se regarder dans le miroir puis de se demander « what the fuck is going on? » Et ce cataclysme, je vous dirais, a été particulièrement difficile, mais... C'est le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Honnêtement, là, c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire de juste me dire « Hey Sam, assis-toi 2 secondes, regarde autour de toi, écoute ce petit cœur qui ne sert pas juste à te faire courir vite sur un terrain de soccer, qui ne te sert pas juste à te faire aller vite, vite, vite tout le temps. Écoute-le, ce petit cœur-là, parce qu'il y a des choses à te dire. Puis essaye de t'aimer à travers tout ça. » Essaye d'apprendre à t'aimer en constatant véritablement qui tu es. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un wonderful journey began, mon anglais. Ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment là, ça a été une aventure rocambolesque. J'ai dû apprendre à bâtir et à voguer sur mon propre petit voilier. Et non plus sur le petit radeau de merde fragile qui me servait d'embarcation depuis tellement d'années, mais que j'avais pas le courage de ramener au quai, parce que ça voudrait dire de m'arrêter puis de me poser des questions. Ça a pris du courage. Ça a pris bien des pleurs. Ça a pris un petit peu de folie. Mais here I am. Here I am avec un voilier vraiment imparfait, mais qui est capable de mieux traverser les marées. Puis honnêtement, je vous souhaite vraiment de bâtir votre propre voilier. Je vous souhaite de vivre des moments comme j'ai vécu avec le lancement de ce podcast que je représente vraiment maladroitement comme le fait de hisser sa grand voile. Pour vrai, ça sonne cucu, là, mais ça a vraiment été ça pour moi, le lancement de ce podcast-là. C'est de finalement hisser ma grand voile, de la déployer. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite de déployer votre grand voile puis de vivre ces moments exaltants où vous savez que vous faites quelque chose où vous êtes pleinement vous. Où vous êtes pleinement vous et passionné. et qui vous rend bien et qui vous anime d'un bonheur contagieux. Vraiment, je vous le souhaite. Puis ça passe par comprendre qui on est, tu sais. Puis comprendre qui on est, je veux faire la distinction, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, je ne pense pas que c'est se redéfinir. Parce que souvent, on entend ça, « Ah, j'ai appris à me redéfinir selon mes propres valeurs, mes propres... » Bon, selon moi, on ne se redéfinit pas. On est déjà ce qu'on est. On progresse, on devient meilleur, on apprend, mais je pense pas qu'on... Je pense pas qu'on change drastiquement toutes les variables de notre équation. Je pense qu'on est déjà ce qu'on est. Puis il suffit juste d'avoir un petit peu de courage, de creuser, puis de dépoussiérer ce qu'on n'arrivait pas à voir avant. Puis surtout, d'apprendre à aimer ce qu'on découvre, aimer ce qu'on voit, finalement. Parce que c'est bien beau comprendre qui on est, mais pour moi, l'étape qui est encore plus cruciale, c'est la deuxième étape, c'est d'aimer ce qu'on découvre. C'est aimer cette Sam qui concorde peut-être pas avec tous les préceptes sociaux de réussite puis d'excellence qui ont jalonné son cheminement, mais qui est unique, tu sais, puis qui a le goût qui a le goût de vivre, puis qui a le goût d'être qui elle est. Puis qui elle est, Sam, ben moi j'ai compris, je suis une créatrice dans l'âme, je suis une entrepreneur. Rachel, il dit I'm a conversationalist. Ça, je pense que je suis ça, les conversations avec les humains. Grandir, évoluer dans une conversation avec quelqu'un d'autre en face de moi, comprendre ses émotions, moi, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. Puis le format aussi, si je peux juste vous l'expliquer rapidement, le format, pourquoi on s'assoit puis on boit du vin, ben c'est super simple. C'est juste que pendant la pandémie, avec mes amis, on se faisait ces fameux Skype, Zoom, Teams, Nights, où on pouvait pas se voir en vrai. Fait que on se faisait des soirées virtuelles et on buvait du vin. Fait qu'on buvait du vin avec ma gang d'amis, puis on parlait de sujets hyper importants. Des sujets qu'on abordait pré-pandémie, oui, mais des sujets qu'on abordait dans une espèce de chaos organisé, un chaos accepté, dans le sens où on était dans des restos, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'action, ton cellulaire qui vibre, les emails qui rentrent, pas se coucher trop tard, demain je travaille à telle heure. Tu sais, fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments qui créaient une espèce de chaos dans la conversation, puis selon moi, ça permettait pas d'entrer en profondeur dans certaines thématiques. Puis durant ces soirées-là virtuelles, on a pu le faire parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. On n'avait rien d'autre à faire que se parler puis boire du vin. Fait que je me suis dit, hey, il y a tellement de moments où je suis allée me coucher après ces soirées-là où j'ai réfléchi, je me suis questionnée, ça m'a permis d'évoluer, moi, dans ma façon de percevoir certaines choses. Je me suis dit, mon Dieu, j'avais envie de partager, moi, les superbes moments de réflexion que j'avais post-conversation. J'avais envie de faire vivre ça dans un projet où ça pourrait être multiplié par dizaines, par centaines, par milliers. Donc voilà! C'est pour ça que j'ai fait un podcast. C'est-tu clair? J'ai parlé avec le cœur, les amis. J'ai parlé avec le cœur. Donc, deuxième question. Pourquoi les insatiables? Pourquoi les insatiables? J'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question parce que... C'est quand même le cœur de ce projet-là, le nom du projet, hein? Un nom d'entreprise, nom de projet, c'est ça le définit. Et insatiable, je vais peut-être vous donner la définition, là, premièrement, d'insatiable. Je ne prends pas pour acquis que vous êtes niaiseux, là. C'est juste on va tous partir sur la même base. comme ça, quand je vais vous expliquer ma réflexion, ça va peut-être aider. Donc, la véritable définition, selon le Larousse, c'est qui ne peut être rassasié, assouvi. Donc, avec ça en tête, ben ma réponse va être hyper simple pour moi. Puis là, je l'ai dit quelques fois là, depuis le début de cet épisode-là, mais pour moi, la curiosité puis l'envie, je dirais, incessante d'en apprendre toujours plus, c'est extrêmement important dans ma propre définition, puis dans ma définition du succès et du bonheur aussi. Comme j'ai dit tantôt, la vie est tellement courte, on prend tellement pour acquis tellement de choses, on perd tellement de temps à s'anesthésier alors qu'on devrait, moi je pense, embrace le contraire, s'émerveiller devant l'immensité du monde, s'émerveiller devant tant de connaissances accessibles, puis s'émerveiller devant tant de diversité humaine, tant de beauté humaine, tant de sagesse humaine. Moi, en tout cas, c'est ça qui me passionne, puis je pense qu'à travers ce projet-là, puis après en avoir parlé à plusieurs personnes, je pense qu'il y en a une bonne gang aussi qui pensent comme moi, qui sont curieux de nature, puis qui veulent pousser plus loin leurs connaissances, puis connecter avec d'autres humains, comprendre les réalités de d'autres personnes qui sont issues de d'autres backgrounds. Puis c'est ça, c'est vraiment tout. Les insatiables, puis c'est à ces personnes-là, donc les curieux, ceux qui veulent creuser plus loin, ceux qui veulent connecter, puis je m'inclus là-dedans, puis là, c'est ça, que ce soit, quand je parle de ces personnes-là, les insatiables, c'est moi, c'est vous, c'est les invités, puis à ces insatiables-là de la vie, que je les appelle, là, c'est vous, les insatiables de la vie qui se satisfont pas du statu quo, qui ont soif d'apprendre, qui ont envie d'être une meilleure version d'eux-mêmes, qui refusent d'être étiquetés là, comme des conformistes, qui veulent pousser plus loin les réflexions, qui veulent mieux comprendre qui ils sont, qui ils ont le potentiel d'être, qui osent se vulnérabiliser, qui sont courageux, qui veulent grandir dire à travers les conversations inspirantes, ben c'est ça. C'est ça, les insatiables. C'est vous, les insatiables de la vie. C'est moi, l'insatiable de la vie. C'est tous les gens qui ont envie d'embarquer dans ce projet-là. Fait que c'est ça. C'est ça, les insatiables. Je pense que je l'explique comme je pouvais, là, de façon claire. Encore une fois, clair et succinct. C'est vraiment mes deux mots, les deux mots thématiques de cet épisode-là. Troisième question, qui serait l'invité que tu voudrais absolument avoir sur ton podcast? Big question. Un peu comme les citations, puis là, je viens de vous le dire, là, les humains me fascinent, puis les humains qui me fascinent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis souvent, ça vient par vague. Hein. Il y a certaines personnes, durant une certaine période, je vais être très, très fascinée par lui ou elle. Après ça, je vais avoir un autre documentaire, là, je vais être très fascinée par cette personne. Je vais lire une biographie ou je vais aller voir une exposée ou whatever. Donc, beaucoup d'humains me fascinent. Fait que c'est difficile pour moi de n'en nommer qu'un. Et d'ailleurs, c'est pour ça, hein, que j'adore lire des biographies. Hein. Je tripe sur les biographies. Ouais, fait que je vais y aller avec trois personnes. Je vais y aller avec trois personnes du moment, là. OK? La première personne, je pense que ce serait Vincent Van Gogh, parce que je suis récemment allée voir son exposition au Palais des Congrès. Donc, exposition en mode immersive, là. Je pense que c'est le regroupement ou la compagnie Oasis Immersion qui fait ça. Quel superbe moment! Quelle superbe exposition! J'ai été émotionnellement jetée à terre, vraiment. Je ne sais pas si c'est fini. Hein. Je ne sais pas si c'est fini. Je pense qu'il déménage à Trois-Rivières cet été. Mais ça m'a beaucoup touchée. Vincent Van Gogh, on connaît son histoire. C'est un peintre un peu troublé, la fameuse anecdote de son oreille coupée avec Gauguin. Donc, c'est ça, on a comme une image, je ne vais pas dire négative, mais c'est comme une espèce de mystère, Vincent Van Gogh. Mais là, de voir l'exposition, ça m'a beaucoup touchée. On parle beaucoup dans cette exposition-là de son amour de l'humain. de son amour de lui-même. Puis c'est, je pense que c'est ça qui m'a touchée. Parce que moi-même, j'ai une envie de comprendre l'humain. J'ai une envie de connecter émotionnellement avec les humains. Puis c'est ça qu'on comprend à travers cette exposition-là. C'est quelqu'un qui voyait les couleurs de la vie comme, comme essentielles à la définition du bonheur. Mais c'est quelqu'un qui était très seul. C'est quelqu'un qui est un peu tombé dans les abysses d'une santé mentale très fragile. Et puis, je me doute qu'à la fin des années 1800, c'était pas... les soins étaient pas à leur paroxysme en termes de santé mentale. Mais c'est ça, c'est un homme qui a beaucoup souffert, mais c'est un homme qui me fascine en termes d'art, donc et compréhension de la vie. Donc je l'aurai sur le podcast. La deuxième personne, c'est je la connaissais, mais c'est juste que depuis quelques jours, là, je suis très, très intéressée par son nouveau projet. Donc, c'est Alexis Ohanian, qui est le mari de Serena Williams et qui est aussi le fondateur de Reddit et du fonds 776, qui est un fonds dédié à ouvrir le plus de portes possibles aux entrepreneurs puis à casser les barrières d'entrée pour s'assurer que tout le monde un peu débute sur la même ligne de départ en termes d'entrepreneuriat. C'est un fier féministe. Et sa façon de parler de 776, en fait, 776, ça vient de l'année où les premiers Jeux olympiques se sont tenus. Et là, il explique que la première personne qui a gagné la première épreuve, c'est un chef culinaire, et il aurait gagné la première épreuve, je pense que c'était de la marche ou de la course, là, je ne suis plus très sûre. Et on dit que ce sont les Jeux olympiques où tout le monde pouvait y participer, puis encore à ce jour, les Jeux olympiques, ça unit les nations, ça unit les peuples, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité. Mais là, ce qu'il dit, c'est que c'est faux. C'est faux, et en 776 avant Jésus-Christ, on dit que tout le monde pouvait y participer, mais c'est faux. C'était les citoyens grecs. Mais c'était qui, les citoyens grecs? C'était pas les femmes, c'était pas les esclaves, c'était pas tel type de personne, tel type de personne, tel type de personne. Donc, c'est ça son mindset. Il dit, oui, on dit que tout le monde débute la même ligne de départ, mais c'est faux. C'est faux. Puis moi, mon objectif, c'est de m'assurer d'offrir le plus d'opportunités puis d'ouvrir le plus de portes possibles aux personnes pour qui c'est plus difficile l'entrée sur le marché de l'entrepreneuriat. Et la dernière personne, parce que j'ai lu son livre récemment, merci à Léo le libraire, épisode 13. Donc, c'est Toni Morrison qui est l'une des plus grandes autrices noires de l'histoire et qui est aussi lauréate d'un prix Nobel de la littérature pour l'ensemble de son œuvre. Toni Morrison qui s'est dédiée à mettre en lumière la réalité des Afro-Américains, puis aussi toutes les conséquences néfastes du racisme aux États-Unis. Ouais, ça, j'aimerais beaucoup. Elle est malheureusement décédée. Mais ça, j'aurais beaucoup aimé parler à cette femme. Prochaine question. Parle-nous de ta définition de l'amour. Quelle place est-ce que l'amour a dans ta vie? Mon Dieu, une petite question facile, hein? Ça vous tentait pas de me demander c'est quoi ma couleur préférée? Non, mais j'aime ça. J'aime ça. Ça fit avec le contexte, ça fit avec l'objectif du podcast, les insatiables. On va dans le deep. Hein? On creuse. Alors, là, je prends des petites gorgées d'eau. Hein? Je suis désolée, à défaut de boire du vin. L'amour, je pense que l'amour, c'est un de mes piliers dans ma vie. Définitivement. Mais je pense que c'est important ici de pas y aller dans une explication un peu à l'eau de rose, là, où aime ton prochain, l'amour, ça guide tout. Tu sais, comme, oui, Oui, je vous l'accorde, là, ça c'est vrai. Puis ça devrait animer chaque humain là, dans son contexte social. Puis ça devrait être à la base de la majorité de nos interactions comme humains. Mais au-delà de cette fameuse maxime de d'aimer son prochain, moi, quand je parle d'amour, je parle en premier d'amour propre. Je m'explique, quand je parle d'amour propre, là, je parle d'aimer qui on est pleinement, sans flafla, sans modification, sans Photoshop, s'aimer comme on est, purement. Là. Puis c'est pas s'aimer en termes de narcissisme, c'est pas s'aimer en termes de d'hypocrisie, là, de moi je suis comme ça, puis c'est tout, puis je me pose pas plus de questions. Là. Non, c'est s'aimer à travers ses imperfections, s'aimer à travers ses échecs, s'aimer à travers son statut social, s'aimer à travers ses rêves, s'aimer à travers ce qu'on est, mais aussi ce qu'on n'est pas, puis ce qu'on sera jamais. C'est important, ça. Puis je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aiment en ce moment autour de nous. Pour vrai, là. Il y en a, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'aiment, là. T'sais, aimer la version qu'on est sans paillettes, sans couleurs artificielles, juste nous. Puis là, vous allez me dire, c'est ça, vous allez me dire, mais oui, mais les narcissiques s'aiment, eux autres. Mais non, c'est pas de l'amour. Je pense que justement, les narcissiques, c'est les gens les plus insécures, c'est les gens les plus malheureux. Et les gens, je pense, qui sont les moins en amour avec eux-mêmes. Puis pour moi, les gens qui sont... Là, je parle des narcissiques. J'ai utilisé le terme narcissique, mais il y a d'autres mondes aussi là, qui s'aiment pas. Mais je pense que les gens qui s'aiment le moins, c'est les gens qui causent le plus de tort. Ouais. Et qui ont besoin de rabaisser, qui ont besoin de s'acharner à s'installer par-dessus tout le monde sans aucun souci. Là. Pour eux, c'est naturel. Puis je pense aussi les gens qui ne s'aiment pas, c'est ça, c'est les gens les plus malheureux. Malgré ce qu'on voit, malgré les apparences, c'est les gens les plus malheureux. Puis je pense que, en sachant ça, moi, je pense que c'est les gens qui s'aiment pleinement et honnêtement qui accomplissent les plus belles choses, qui sont capables d'aimer d'autres humains, qui sont capables d'aimer d'autres humains merveilleux à leur juste valeur, là, qui sont capables de connaître leur définition du bonheur puis y être fidèles. Y être fidèles, c'est important, ça. Puis s'aimer, là, c'est pas juste se lever un matin puis se regarder dans le miroir, j'arrive pas à parler, mais se regarder dans le miroir puis se dire « Wow, moi, là, je m'aime ce matin. » Non, c'est pas ça, s'aimer, là. Ça, juste se dire « moi, je m'aime » puis passer à autre chose, pour moi, c'est paresseux, c'est inefficace, puis c'est c'est borderline psychopathe, là. Mais oui, apprendre à s'aimer, c'est difficile. C'est difficile, c'est laborieux, c'est passer des moments seuls, c'est réfléchir, c'est se challenger, c'est se ressourcer, c'est s'accepter, c'est apprendre à faire face au monde extérieur. Au monde extérieur, puis en portant plus de masque, en portant plus d'armure, en n'ayant plus besoin de faire son tough, en n'ayant plus besoin de faire les petits pics, les petites blagues, Ça, c'est des gens qui ne s'aiment pas pleinement, là. Puis ça, je nous le souhaite tous. J'ai débuté ce processus-là de mon côté, puis tabarouette, c'était pas facile. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable parce qu'à travers tout ça, là, je me sais finalement moi-même, je me sais plus à l'écoute, je me sais plus orientée vers les autres, je me sais être une meilleure amie, une meilleure blonde, une meilleure sœur, une meilleure fille. Je sais que j'aime mieux maintenant. Je sais que j'aime mieux. Puis aimer mieux, c'est quelque chose de tellement, mais tellement crucial dans notre société en ce moment. Aimer mieux, là, c'est se connaître au point où on est prêt à être la meilleure version de nous-mêmes dans nos communautés, où on est prêt à être généreux, où on est prêt à avoir un réel impact positif là, sur les gens qui nous entourent. Puis de l'amour venant de nos proches qui s'aiment, ben on en a tous besoin. Puis c'est pour ça que je dis que l'amour est une pierre angulaire dans ma vie, parce que je pense que c'est à la base... Je pense que c'est ça à la base là, d'une existence qui est vraiment saine, épanouie, qui... Je pense que c'est à la base du bonheur. Pour vrai, là, j'y réfléchis, là, mais je pense que c'est à la base du bonheur. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin de chaque épisode, je dis toujours, soyez gentils avec vous-même, c'est tellement important. Parce que je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à la société, c'est s'aimer soi-même, se comprendre pour être capable de déployer très honnêtement, très sincèrement qui on est vers l'extérieur, puis offrir la meilleure version de nous-mêmes à nos communautés respectives. Ouais, c'était deep comme réponse, hein? C'était deep. Mais bon, c'est ma définition de l'amour. Une autre question deep, mes petits coquins. Quelle est ton expérience en tant qu'enfant mixte et par rapport à ton identité? Une belle question. C'est une très, 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 très belle question. C'est quelque chose qui m'habite très souvent, cette question. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup, surtout avec les montées de l'extrême droite un peu partout à travers le monde, avec les questions d'immigration. Puis on ne se le cachera pas. Moi, je vais le dire, il y a une montée du racisme, oui, même au Québec. Et c'est mon expérience, là. C'est mon expérience. Mon expérience, parce que oui, je suis une enfant métisse, une enfant, un grand bébé métisse. Donc, moi, je suis née à Montréal, mais ma mère est noire, originaire de l'île de la Réunion, qui est un département d'outre-mer français en plein océan Indien. Donc, pour vous situer, c'est à côté de Madagascar et de l'île Maurice. Et donc, ma mère est française. Et mon papa est blanc. Mon papa est québécois francophone. Et born and raised dans la région de Montréal. Oui, je vais le dire, mon père a aussi grandi à Laval. Ça fait de nous des gens extraordinaires. Donc, mon père aussi est Lavalois. Fait que moi, mon expérience, c'est très all over the place. C'est très all over the place, mon expérience, puis ça a été difficile pour moi parce que pour moi, mon identité devait être... Mais je pense que c'est ce qu'on s'attend de tout le monde, mais on s'attend à ce que tout le monde ait une identité un peu figée, coulée dans le béton. Qui tu es? Qui es-tu? Puis il faut que tu répondes très spécifiquement, avec une seule phrase, un seul élément de réponse. Fait que pour moi, ça a été difficile parce que mon identité, elle est multiple. Et ce qui m'a permis de faire la paix avec tout ça, bien, c'est juste de comprendre que mon identité, elle est subjective. Surtout, c'est la mienne. C'est pas la vôtre. C'est pas celle de la société. C'est la mienne. Puis c'est unique à qui je suis. Puis je pense que c'est ce qui rend la chose très belle. Fait que moi, comment j'ai grandi, ben, tu sais, moi, la famille de ma mère est à La Réunion ou en France, donc ma mère n'a pas de famille ici. Donc la famille que j'ai eue, moi, dans ma vie, c'était surtout des personnes blanches, donc la famille de mon père. Donc évidemment, la majorité de mes référents, moi, sont issus de la culture québécoise blanche. Mes réflexes sociaux sont très québécois blancs. mon accent, évidemment, est québécois, comme vous l'entendez, mais l'humain extraordinaire, moi, qui m'a porté, qui m'a élevé, qui a joué le rôle maternel tellement déterminant dans ma vie, bien, c'est ma maman noire, avec ses propres bagages culturels, ses façons d'être qui sont typiquement afro-français. Puis, à travers cet amalgame d'éléments culturels, je pense que ce qui est important, puis ce que je dirais à des parents de bébés ou d'enfants métis, c'est d'essayer de léguer à son enfant tous les petits trésors de la culture ou de l'héritage, justement, du parent ou des parents, pour que l'enfant ait le plus d'outils possible pour se définir lui-même puis bâtir sa propre identité. Je pense que c'est ça qui est important. C'est de le mettre en contexte de tous les bagages qu'il a à travers les divers héritages culturels de ses parents. Ça, je pense que c'est important. C'est important de lui en parler, c'est important de lui montrer, c'est important qu'il comprenne. Puis après ça, avec tous les outils qu'il a dans sa boîte à outils, il va être capable de se forger puis de se bâtir son identité. Bien là, je vous dis ça comme si bâtir son identité, c'était hyper... It was a walk in the park. It is not. It is not. Comme j'ai dit, moi, ça a été difficile là, parce que j'étais un peu all over the place, puis on s'attend à avoir des réponses très précises au niveau de l'identité. Puis c'est encore difficile. Là. C'est encore difficile pour moi de me situer complètement à travers tout ça. Et il y a une chanson, moi, qui m'avait beaucoup marquée il y a une dizaine d'années. Puis si vous voulez l'écouter, je pense que ça illustre bien. Évidemment, il y a quelques exagérations dans la chanson, mais c'est la chanson « Bâtard » de Stromae. Stromae, qui lui aussi est un enfant métis. Et si vous allez écouter les paroles, il y a des paroles très, très fortes là, à travers tout ça. Le beat est excellent. Le Stromae, c'est un génie. Mais il explique très bien la dualité qui nous habite et qui n'est pas toujours facile à jongler avec. Parce que c'est ça, quand t'es métisse, tu joues sur deux plans. T'es blanche, t'es noire. T'es compliqué, t'es mixé, tu te comprends pas, t'as tellement d'informations à procéder pour te construire cette identité-là, tu veux pas décevoir un parent, tu veux pas décevoir l'autre parent, puis sans arrêt, on veut savoir immédiatement, tout de suite, où est-ce que tu te situes? T'es-tu blanche? T'es-tu noire? T'es quoi? Tu viens d'où? Ah, mais t'es pas vraiment noire? « Ah, mais t'es pas 100% québécoise. Ah, mais ça compte pas, ça, là, de base, ce que tu dis. Ah, mais là, tu comprends pas vraiment, alors. Ah, mais t'as juste des amis blancs. Ah, mais toi, tu viens pas vraiment d'ici. » C'est quand même assez violent, certains propos que j'ai entendus dans ma vie par rapport à ça. Surtout pour la petite anxieuse que j'étais, qui voulait plaire, puis qui comprenait pas tout à fait qui elle était. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de très, très beau à être bâtard, dans le sens positif du terme. Je sais que moi, j'ai énormément de trésors en moi qui m'ont été transmis par ma mère, par mon père. Tellement de saveurs, d'accents, de nourriture, de tempérament, de couleurs, d'informations. J'ai tellement d'outils culturels dans ma petite boîte. Puis je pense d'ailleurs que ça joue un rôle assez déterminant dans ma curiosité insatiable. Puis, encore une fois, si j'avais à parler à des parents, je pense que l'art de se définir quand tes bagages culturels sont multiples, ben c'est de embrace chaque élément qui résonne pleinement en toi, puis de comprendre, c'est ça, ton identité, elle t'appartient, pas définitive, puis est multiple. Fait que les parents, là, partagez tout ce qu'il y a de beau dans votre culture à vos enfants métis. Aimez-les assez pour leur permettre de se construire selon les outils que vous leur avez octroyés. Soyez confiants. Faites-leur confiance qu'ils vont être capables de se bâtir leur propre identité. Parce que ça, j'y crois. J'y crois qu'on est tous des pas pires menuisiers quand on a les bons outils. Fait que je sais pas si cette réponse est si claire que ça, mais l'identité n'est pas claire. L'identité, pour moi, comme enfant métisse, elle est souvent trouble, mais dans le bon sens du terme, là. Donc ouais, ce serait ma réponse. Et là, je finirai avec des petites questions blitz. Très rapides, shots fired, puis là, je réponds plus rapidement. Alors, puis là, c'est d'autres questions qu'on m'a demandé. Quels sont tes podcasts préférés? Donc, ça, j'en ai parlé un peu au début avec mon top 5. Je dirais qu'en ce moment, j'écoute évidemment Rich Roll Podcast, Deviens-tu ce que tu as voulu, Tim Ferriss Show. Et pour mes doses, s'il y a des Français qui écoutent, et pour mes doses quotidiennes de chialage sur le foot, un podcast français classique, l'After Show. Oui, évidemment. Ou l'After Foot. Je pense que c'est l'After Foot. En tout cas, eux, ils l'appellent l'After. L'after. Ah, les Français, toujours à mettre des mots anglais partout. Mais ouais, je dirais que j'écoute ça en ce moment, mais j'en ai tellement. Ma bibliothèque de podcasts est énorme. Quelle est ta plus belle qualité, ton plus gros défaut? Grosse question d'entrevue, ça. Grosse question d'entrevue. Plus gros défaut, je suis une pipe de tête dure. Ouais, j'y vais rapidement, là. Je suis une de tête dure. Je m'accroche des fois à des idées, là, puis ça peut parfois me mener à prendre certaines choses personnelles. Mais, depuis que je travaille sur moi depuis un an et demi, je pense que je me suis beaucoup adoucie, assagie avec le temps. C'est beaucoup moins intense, mais je pense que ce serait ça. Je pense. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, mes amis qui écoutent, écrivez-moi. Plus belle qualité. Je pense que c'est mon. Ça va être weird, hein, mais je pense que c'est mon intelligence émotionnelle. Je comprends vite ce que les autres vivent. Puis je pense que ça fait de moi aussi une amie très, très à l'écoute. Je comprends bien ce que mes amis vivent. Je suis très loyale aussi. Je suis très loyale en amitié. Ouais, je pense. En tout cas, je tournerais autour de ça. C'est très bizarre parler de ses qualités. Si tu avais un pouvoir magique, ce serait lequel? J'aimerais beaucoup vous donner la fameuse réponse de voler. Mais j'ai le vertige. Fait que, très honnête avec vous, ce serait un peu cave comme décision. Je pense que je choisirais de téléporter. Parce que la vie est courte, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens que j'aimerais voir plus souvent. Et il y a tellement de choses que j'ai envie d'apprendre, de découvrir puis d'accomplir. J'ai l'impression que si je me téléportais très rapidement à certains endroits, ça pourrait combler ce désir. Es-tu éco-anxieuse? Réponse courte, oui. Réponse longue, mais pas au point où ça ruine ma vie. Je m'explique. Oui, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Et c'est d'ailleurs, c'est vraiment un objectif là, d'en faire un épisode, trouver le bon angle là, pour faire un épisode axé sur l'environnement. Mais je ne vous cacherai pas, moi, la nonchalance, la désinvolture avec laquelle on continue de vivre nos vies là, comme si de rien n'était, après tous les rapports du JEC, de l'ONU, tous les cris d'alerte des scientifiques, après tous les signes positifs d'un ralentissement. Là. Quand il y a eu la COVID, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a eu tellement de signes positifs issus du ralentissement dans nos déplacements de malades, là, parce que nous, on a besoin de ça, les humains. Il faut qu'on se déplace tout le temps. Il y a tellement eu d'effets positifs. Je ne sais pas si vous le saviez. En tout cas, je vous invite à aller lire là-dessus. Mais bon, apparemment c'était de passage. Puis, Je sais que malheureusement, ça prend souvent des catastrophes pour agir, mais des fois, je me dis que l'attente, que l'immobilisme dans lequel on se situe, l'attente de cette catastrophe-là, ben, ça pourrait être la catastrophe ultime. Et ça pourrait être the catastrophe qui pourrait nous être fatale. Puis je comprends pas, en fait. C'est peut-être ça. C'est de l'éco-anxiété, mais c'est de l'éco-frustration, peut-être, plus que de l'anxiété. Parce que nous, on va être correct, là, on va se le dire. Là. Nous autres, on sera zéro impacté par ça. Bon, non, pas zéro. C'est très, très faux parce que déjà, on voit que nos hivers changent. Il y a déjà plusieurs éléments climatiques qui se font voir, qui se font sentir. Mais je ne pense pas qu'on va vivre des répercussions si traumatiques que ça. Nos enfants, oui, je n'ai pas d'enfants, si j'en ai, mais... vos enfants sont mes enfants. Donc, nos enfants, leurs enfants à eux, nos petits-enfants, je pense que oui. Je pense que oui, qu'ils vont vivre des choses relativement dramatiques. Hein? Mais nous, on ne sera pas morts. Nous, on va être... on sera pas morts. On va être morts. Bon, on ne sera pas morts en étant témoin de catastrophes tant que ça, parce que, tu sais, nous autres... Il faut continuer d'avoir nos gros VUS, il faut continuer d'avoir nos déchets, il faut continuer de faire nos 9 voyages par année. Je vais arrêter parce qu'il y a des choses que je vois qui me fâchent énormément. Mais moi, la chose qui me motive, par contre, pourquoi je dors bien le soir, la chose qui me motive, c'est que y a tellement de belles histoires de citoyens qui se sont mobilisés pour changer les choses. Des projets municipaux comme le rêve, puis là, c'est vraiment pas une publicité partisane. Là. Juste, moi, je trouve que ça, c'est probablement l'un des projets de mobilité durable les plus extraordinaires qui ever à Montréal. Les jeunes qui sont de plus en plus vocaux, les start-up innovatrices qui lancent des produits révolutionnaires pour changer les choses. Toutes les entreprises qui mettent en place des nouveaux guidelines en termes de développement durable dans leur fonctionnement corporatif. Ça me redonne le sourire, je dois vous le dire. Puis ça me permet de dormir le soir. C'est pour ça que je dors bien le soir. Mais ça, c'est des histoires, c'est des belles histoires qui me font du bien. D'ailleurs, j'aimerais ça, comme je vous ai dit, faire un podcast là-dessus. Je pense que c'est très important. C'est qui le plus grand joueur de soccer de tous les temps? Zidane. Aucun débat. Aucun débat à avoir là-dessus. Un artiste brillant avec le ballon, un métronome hors pair au milieu de terrain, un géant dans les grands moments. Puis pour ceux qui doutent, là, qui veulent réellement débattre avec moi, je vous invite préalablement au débat que vous voulez avoir avec moi, je vous invite à aller voir les highlights de son match de quart de finale contre le Brésil à la Coupe du Monde 2006. Je vous invite à aller regarder ça et même d'aller regarder le match. Je sais que vous n'allez pas le faire, mais je pense que le match est disponible. Puis on en rejase après. Really. Vraiment, là, on en rejase après. Allez voir ces highlights-là. Donc, Zidane, aucun débat à avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'on souhaite? Beaucoup d'amour, beaucoup de prochains projets tout aussi fous que ce podcast. Que ce podcast continue à progresser. Et je me souhaite de stay hungry, stay foolish. Ouais, je me souhaite de stay hungry, stay foolish. Sur ce, les amis... C'était ce fameux épisode que je vous avais promis sur moi. J'espère que ce n'était pas trop deep, trop redondant. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. J'espère que vous avez été divertis. J'espère que vous avez aimé tout ce concept, un concept qui ne reviendra pas souvent, parce que c'est vous, mes insatiables, les stars, c'est les invités, c'est les auditeurs, et voilà. Donc, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode qui va sortir très bientôt, et je voulais prendre le temps encore une fois de vous remercier pour votre soutien indéfectible, pour votre Pour vos bons mots, pour tout l'amour que vous m'avez témoigné, ça m'a beaucoup touchée il y a un an. Ça continue de me toucher énormément 12 mois plus tard. Vous êtes incroyable, vous êtes merveilleux, vous êtes insatiable. Je vous aime et on se retrouve très, 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 très bientôt à un prochain épisode des Insatiables.